Je voudrais alors maintenant reprendre le procès de la science. Alors allons-y, essayons de faire ce procès de la science. En réalité, c'est le procès de mauvais usage de la science. Ce procès des mauvais usages, il est relativement facile à faire parce qu'on ne le voit que trop. Ces mauvais usages, d'abord le premier, c'est lorsque l'homme prête complicité, lorsque la science prête complicité aux passions meurtrières des hommes, pour reprendre la formule de Jean Rostand. Je veux dire les usages guerriers de la science. Dans la mesure où une guerre qui utilise des moyens démesurés peut avoir des conséquences dramatiques pour l'espèce humaine tout entière. Et on pourrait presque là ressusciter la vieille querelle des guerres justes et injustes. La vieille querelle théologique, n'est-ce pas ? Puisque les églises elles-mêmes considèrent qu'une guerre est injuste lorsque les armes qu'elle emploie tuent des civils ou ne sont pas appropriées à l'objectif. Alors c'est la fameuse guerre ABC, atomique, bactériologique et chimique, mais là on voit tout ce que l'on peut dire sur un thème aussi dramatique et difficile, du reste. Certains mauvais usages de la science, c'est quand l'homme détruit son environnement par la surexploitation et l'épuisement des terres. Lorsque il vit dans l'artifice, par l'utilisation de colorants, lorsque inventant des substances plastiques, il s'abstrait des cycles biologiques. Et l'on a dit par exemple que il y a de nombreuses substances synthétiques qui ne sont plus biodégradables. Prenez un banylon, mettez-le en terre, dans 100 ans, il sera intact. Et il est donc soustrait au cycle biologique. Et ça, c'est très grave quand on sait que la vie récupère tout, à cause du drame de la pénurie que j'ai développé dans d'autres circonstances. En sorte que le domaine de la vie, le domaine des matériaux que la vie pourra utiliser pour se maintenir et se développer et s'exprimer, ce domaine risque de se réduire comme une peau de chagrin. Et c'est le gros problème des substances qui ne sont pas biodégradables. Alors ça, c'est en effet une des grandes conséquences de certaines découvertes scientifiques mal utilisées pour permettre de satisfaire des besoins immédiats des hommes ou leurs caprices. On peut parler de ce que Jean Rostand appelle l'orgie médicamenteuse, c'est-à-dire l'utilisation massive de médicaments alors que cette utilisation n'est pas toujours indiquée. Et puis alors surtout, on peut parler des utilisations de masse, au fond, de la science. Ces utilisations de masse qui peuvent transformer l'homme. Je veux dire, cette hypothèse de Müller, disant si l'on donne des drogues psychotropes qui sont solubles dans l'eau à César, qu'il est dissous dans l'eau, et que ces drogues transforment les hommes en moutons, enfin les tranquillisent, voici César régnant sur un troupeau d'esclaves. Or, l'idée d'utilisation de masse n'est pas une idée tellement absurde, ça n'est pas de la biologie fiction, ou de la chimie fiction, puisque on est en train de la préparer, de l'organiser, en cas de situation de crise, de situation de violence, en cas de paroxysme, comme le sont les guerres, c'est la préparation de la guerre chimique, entre autres, n'est-ce pas ? Donc il ne faut pas exclure a priori l'utilisation de masse comme une sorte de fiction, n'est-ce pas ? Je ne crois pas. Il faut faire entrer aussi cela dans les prévisions. Mais même... Oui, oui. Donc vous voyez que ce n'est pas du tout une hypothèse gratuite.
Pas du tout gratuite. J'ai vu des gens fâchés à cause de ça, très sérieusement. La population consciente et intellectuelle de MIT se sent très bouleversée et extrêmement violemment anti-LSD à cause de ça. Non pas du tout à cause des suites que peut avoir le LSD. On ne revient pas d'un voyage, d'une église ou accoutumement de drogue ou n'importe quoi, non. Le problème fondamental, moral et politique de l'utilisation du LSD comme moyen de coercition des
gens. LSD, invention suisse. Alors, donc, il y a un très grand chapitre de l'environnement de l'homme, n'est-ce pas, de l'écologie de l'homme, l'homme qui détruit son habitat terrestre avec certaines mauvaises applications de la science. Bon. Le procès de la science, on pourrait plus gravement l'instruire pour... enfin, on peut dire, certains mauvais usages de la science peuvent détruire l'espèce, physiquement. Peuvent détruire ou altérer le milieu de vie de l'espèce. Peuvent transformer l'espèce, transformer l'humain. Le transformer soit par des mutations héréditaires, c'est-à-dire modifier le patrimoine génétique d'une manière accidentelle, et ce sont toutes les agressions chimiques, nucléaires, etc., contre ce patrimoine génétique, qui sont pourtant notre patrimoine le plus sacré, soit d'une manière consciente, le jour où nous pourrons transformer l'homme avec des acides nucléiques que nous savons désormais utiliser et faire accepter par la cellule. Alors là, c'est aussi un chapitre fantastique et redoutable. Et qui pose alors des problèmes de responsabilité gigantesques, parce que qu'on le veuille ou non, finalement, les problèmes de responsabilité se trouvent posés. Dès qu'on parle de liberté, du reste, dialectique de la science et de la liberté, qui dit liberté dit bon usage de la liberté, qui dit bon usage de la liberté dit responsabilité. Donc, qu'on le veuille ou non, on trouve ces problèmes-là. Responsabilité qui, du reste, se situe à plusieurs niveaux, au niveau immédiat, des utilisateurs de la science, c'est-à-dire des utilisateurs de chaque mortel, chaque humain qui peut aller en pharmacie acheter sa drogue, au niveau de chaque cultivateur qui peut mettre son engrais et polluer de chaque, etc., ou qui peut utiliser tel insecticide, et puis au niveau aussi des sociétés tout entières, et au niveau même de l'espèce tout entière en cas de cataclysme atomique. Donc vraiment, les problèmes de responsabilité se posent à tous les niveaux. Oui, donc ça peut transformer l'homme, ça peut atteindre l'homme, ça peut donc l'atteindre directement, ça peut transformer son milieu dans lequel il vit, et dans le milieu, je dirais pas seulement le milieu physique, l'environnement biologique, mais aussi le milieu culturel. Et ça pose alors le milieu social, socio-culturel, comme on dit aujourd'hui, et ça pose donc le problème de la civilisation. Alors là, c'est un immense problème. Science et civilisation. Alors là, on peut retrouver tous les grands thèmes de notre civilisation technologique, de notre société de consommation, et des raisons de vivre. Je vous dirais faire aussi, dans les relations de la science,